marcher dans votre vocation. Merci encore pour vos prières et votre soutien lors de mon marathon le week-end dernier. Vous savez, avant la course, je me sentais très bien. J'avais suivi les entraînements, j'avais fait les longues courses. Après chaque course, je donnais les données de ma montre connectée, le temps et la distance, à mon entraîneur personnel, ChatGPT, et les retours étaient toujours très bons. ChatGPT disait, « Tu es prêt, tu vas faire une excellente course. » Donc, à l'approche de dimanche dernier, j'ai commencé à prendre confiance, peut-être même à devenir un peu trop sûr de moi. Je me suis dit, « Peut-être que je ferai un autre marathon plus tard cette année. » ChatGPT, en utilisant toutes mes données de course, avait prédit que je terminerais la course en 4h15. J'ai donc commencé la course avec ce groupe. À 9h, la course a commencé. Je gardais le rythme avec mon groupe, mais lorsque je suis passé devant la borne des 5 km, j'ai regardé ma montre. Quelque chose n'allait pas. Parce que ma montre n'indiquait pas que j'avais couru 5 km. Elle disait que j'avais couru 6,4 km. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma montre connectée n'était pas correctement calibrée. Je ne suis pas très bon en mathématiques, mais j'ai commencé à faire les calculs dans ma tête pendant que je courais. Avec cette nouvelle information, j'ai compris que ma plus longue course à l'entraînement, censée être de 34 km, n'était en réalité que de 27 km. Ce qui signifiait aussi que mon allure n'était pas correcte non plus. Parce que ma montre n'était pas calibrée, j'ai commencé la course avec un groupe dont l'allure était en fait beaucoup plus rapide que la mienne. Cela m'a conduit à dépenser trop d'énergie au début, et donc, il ne me restait plus beaucoup d'énergie à la fin de la course. Tout cela parce que ma montre n'était pas correctement calibrée. Ce n'était pas facile, mais j'ai terminé. Mais mon temps n'était pas de 4h15, comme ChatGPT l'avait prédit. Prédiction basée sur une montre non calibrée. Mon vrai temps était de 5h30. J'expliquais cela à mon fils, cette semaine, et il m'a demandé « Que veut dire calibré ?» J'ai eu du mal à lui expliquer. Alors j'ai dû chercher la définition exacte. Ajuster quelque chose afin qu'il puisse être utilisé de manière précise et exacte. Calibrer quelque chose signifie que vous ajustez quelque chose afin qu'il puisse fonctionner au plus haut niveau, comme il a été conçu pour fonctionner. Alors que nous revenons au livre des Éphésiens, je veux que vous réfléchissiez à cette idée de calibration dans le contexte de la vie chrétienne. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles à Éphésiens chapitre 4. Ici, Paul va opérer une transition au début de ce chapitre 4. Comme je l'ai dit la première semaine lorsque nous avons commencé à étudier le livre des Éphésiens, l'apôtre Paul commence souvent ses lettres par la théologie, et ensuite il nous dit comment vivre cette théologie au quotidien. Il commence donc par nous dire pourquoi, et ensuite il nous dit comment. 4.1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Souvenez-vous, Paul est en prison lorsqu'il écrit cette lettre, pas parce qu'il était un voleur ou un criminel, mais à cause de sa fidèle proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ. Et il dit donc, il fait une transition. En d'autres termes, il dit qu'en se fondant sur tout ce qu'il a dit auparavant dans les chapitres précédents, voici maintenant comment vous devez vivre. Qu'a-t-il dit dans les chapitres 1 à 3? Quelle était la théologie? Nous avons vu dans les trois premiers chapitres que nous avons été choisis par Dieu avant la fondation du monde, à la louange de la gloire de sa grâce. Que nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, Jésus-Christ. Qu'au moment du salut, nous avons été scellés du Saint-Esprit, qui nous donne la sagesse et illumine les yeux de notre cœur, et par qui nous avons l'espérance et la puissance. qu'autrefois nous étions morts dans nos fautes, mais Dieu, riche en miséricorde et en amour, nous a sauvés par la grâce, par la foi en Christ, et a préparé de bonnes œuvres pour nous. Que par Jésus-Christ nous sommes tous citoyens du royaume des cieux, et que nous pouvons savoir combien l'amour du Père pour nous est grand, long et profond. Paul dit donc, « Puisque toutes ces choses extraordinaires sont vraies, allez maintenant et vivez d'une manière digne de votre appel. » Il est important de comprendre la progression ici. Paul n'a pas dit « Essayez d'être quelque chose que vous n'êtes pas ». Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit le contraire. Il dit « Soyez ce que vous êtes déjà. Vous avez été choisis par Dieu, alors vivez comme tel. Par grâce, vous avez été sauvés, alors vivez comme tel. Dieu a été miséricordieux envers vous, alors vivez comme tel. Vous avez été appelés par Dieu, alors vivez selon cet appel. » Ou pour utiliser ce mot qui m'a accompagné toute la semaine, calibrer. Ajustez votre vie à la manière dont Dieu vous a conçu pour vivre. Il n'a pas de sens de réfléchir à toutes ces merveilleuses vérités des chapitres 1 à 3, puis de vivre une vie qui ne les reflète pas. Cela n'a pas de sens. Au contraire, Paul dit, calibrez. Vivez votre vie d'une manière qui reflète fidèlement les merveilleuses vérités des chapitres 1 à 3. Alors, comment faire cela? Comment marcher d'une manière digne de votre appel? Je suis heureux que vous posiez la question. 2. Avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour. 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Paul en a déjà parlé au chapitre 2 et 3, comment Christ a fait tomber les murs qui séparent les peuples et les cultures. Nous sommes un en Christ. Nous sommes unis à cause de la croix et de la résurrection. Nous ne créons pas l'unité, elle est déjà créée par le Saint-Esprit. Au lieu de cela, nous nous efforçons de conserver l'unité de l'Esprit. L'unité est quelque chose qui nécessite un entretien constant. Ce n'est pas comme une montre où il suffit de démarrer le temps et puis ça continue tout seul. Non, c'est plutôt comme un jardin. Un jardin doit être entretenu. Un jardin a besoin d'attention. Quelqu'un doit remarquer quand une plante a besoin d'eau ou d'être taillée. Sinon, tout le jardin devient envahi et c'est le désordre. De la même manière, nous devons entretenir avec zèle l'unité de l'Église. Si nous ne le faisons pas, alors les conflits peuvent s'aggraver, la division peut s'approfondir, et cela peut devenir chaotique. Alors, comment maintenons-nous l'unité? Je pense que Paul nous donne la recette au verset 2. Avec humilité, douceur, patience, et en vous supportant les uns les autres dans l'amour. Si deux personnes dans l'Église ont un conflit, mais qu'elles possèdent ces quatre caractéristiques, alors tout devient possible. Le pardon, la réconciliation viendront facilement à ces personnes. Mais imaginons l'inverse. Deux personnes dans l'Église ont un conflit, mais au lieu de l'humilité il y a de l'orgueil, au lieu de la douceur il y a de la dureté, au lieu de la patience il y a de l'irritation, et au lieu de se supporter dans l'amour, il y a une attitude qui dit « j'en ai fini avec lui » ou « j'en ai fini avec elle ». Maintenant, quelle est la probabilité que ces deux personnes se pardonnent et se réconcilient avec une telle attitude? C'est presque impossible. Quelles sont certaines des choses qui divisent les églises? Nous pourrions en dresser une longue liste. Premièrement, des désaccords sur la musique ou le style de culte. Deuxièmement, des luttes de pouvoir et des conflits de leadership. Troisièmement, les commérages. Quatrièmement, l'orgueil. Cinquièmement, des désaccords sur la doctrine. Nous en reparlerons dans un instant. Le problème dans les églises, c'est que l'on a tendance à spiritualiser ces choses et à penser, « Eh bien, Dieu est de mon côté et pas du leur. Je ne sais même pas si cette personne est vraiment chrétienne. » Pendant ce temps, le diable sourit et applaudit en disant « Continuez ». Il y aura des conflits dans les églises. Il y aura des désaccords. Il y aura différentes opinions. C'est normal. C'est la façon dont vous gérez ces choses qui fait toute la différence. Alors laissez-moi vous poser la première question ce matin. Premièrement, êtes-vous une personne qui rassemble les gens? Ou êtes-vous une personne qui les divise? Êtes-vous une personne qui murmure et se plaint? Ou êtes-vous une personne humble et patiente? Êtes-vous agressif ou doux? Essayez-vous de voir ce qu'il y a de bon chez les autres, ou cherchez-vous toujours les défauts? Voici un bon test. À quand remonte la dernière fois où vous avez dit à quelqu'un « Je suis désolé » À quand remonte la dernière fois où vous avez demandé pardon à quelqu'un? Si vous ne vous en souvenez pas, alors il serait peut-être temps de vous regarder dans le miroir. Soyez zélés pour conserver l'unité de l'Église. C'est quelque chose pour laquelle il faut se battre. Mais revenons à la doctrine. Jusqu'où devons-nous aller pour préserver l'unité? Cela signifie-t-il que nous devrions compromettre certaines de nos convictions afin de maintenir la paix? Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Dans ces versets, nous voyons le fondement de notre unité. Dans ce passage, nous voyons le mot « un » sept fois. Un corps, un esprit, une espérance, un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père de tous. Un. Maintenir l'unité ne signifie pas compromettre nos convictions. Ce sont ces croyances fondamentales qui nous unissent. Un seul corps, c'est l'Église. Un seul esprit, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Une seule espérance. Il ne s'agit pas d'une espérance fragile qui dit « peut-être oui, peut-être non ». Il s'agit d'une espérance assurée que nous avons en Christ. Un seul Seigneur, c'est Jésus. Une seule foi. Il y a beaucoup de religions dans le monde aujourd'hui. Mais Paul a écrit qu'il n'y a qu'une seule foi. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Un seul baptême. Paul pourrait parler du baptême du Saint-Esprit lors du salut, ou du baptême d'eau, le signe extérieur de notre foi. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes baptisés en Christ. Et enfin, un seul Dieu, le Dieu tout-puissant et transcendant, qui est au-dessus de tout. L'unité en Christ ne signifie pas que nous sommes toujours d'accord sur tout, surtout dans une église comme Gospel Church, où nous venons de cultures et d'expériences d'églises différentes. L'unité en Christ ne veut pas dire que nous serons toujours d'accord sur chaque chose, mais cela signifie que nous sommes d'accord sur l'essentiel. Comme il est écrit sur le site web de notre église, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, inspirée et faisant autorité. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, éternellement existant en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons en la divinité de Christ, en sa naissance virginale, en sa vie sans péché, en sa mort sur la croix pour nos péchés, ainsi qu'en sa résurrection et son retour. Nous croyons que tous les hommes sont pécheurs par nature et condamnés par Dieu. Nous croyons que Dieu, dans sa grâce, a pourvu au salut pour tous ceux qui l'invoquent. Voilà ce qui nous unit. Mais après avoir parlé de notre unité, Paul parle ensuite de notre diversité. Or, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous avons vu que la grâce est un grand thème dans l'Épître aux Éphésiens. Mais ici, Paul ne parle pas de la grâce qui sauve, il parle plutôt de la grâce pour le ministère. Dans d'autres passages des Écritures, il est question des dons spirituels de la même manière. Ces dons sont quelque chose que Jésus nous donne, n'est pas quelque chose que vous devez aller acheter. Alors, Nous sommes un, mais nous sommes tous différents. C'est le dessein de Dieu. Dieu a créé l'Église de cette manière. Dieu nous a fait différents intentionnellement. Dans 1 Corinthiens 12, Paul dit qu'il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Et cela a du sens, n'est-ce pas? Si nous étions tous simplement un bras, que pourrions-nous accomplir? Pas grand-chose. Mais Dieu a disposé les membres du corps comme il l'a voulu. Ce qui signifie qu'il existe une manière dont nous nous assemblons et fonctionnons tous ensemble. Il y a une façon dont tes dons complètent les dons de toute l'Église. Tu as quelque chose à donner, tu as quelque chose à apporter. Et c'est tout aussi précieux que ce que n'importe qui d'autre dans cette Église apporte aussi. Pour appuyer son point, Paul va revenir en arrière et citer l'Ancien Testament. 8. C'est pourquoi il est dit, « Étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. » 9. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Paul cite ici le psaume 68, 18, qui est un psaume de victoire et de triomphe, mais Paul change un mot dans le psaume ici. Dans le psaume 68, le Seigneur victorieux recevait des dons du peuple, mais au verset 8, Paul dit qu'il a fait des dons au peuple. Autrement dit, il était coutume à l'époque que le roi victorieux reçoive des cadeaux du peuple pour sa victoire. Mais Paul dit que lorsque Jésus est descendu, lorsqu'il est venu sur la terre, où il est mort sur la croix, mais a vaincu le péché et la mort une fois pour toutes par la résurrection. Et lorsque Jésus est remonté au ciel, Jésus n'a pas reçu de cadeaux du peuple, comme il est dit dans le psaume. Au contraire, il a fait des dons au peuple, c'est-à-dire à nous. Alors, quel don a-t-il donné? 11. Et il a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers et les enseignants. D'abord, Paul parle des dirigeants spirituels dans l'Église que le Christ nous a donnés, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers et les enseignants. Maintenant, il y a un certain débat concernant les deux premiers rôles, les apôtres et les prophètes, à savoir s'ils sont encore actifs dans l'Église aujourd'hui, ou s'ils ont cessé d'exister, après la mort des premiers apôtres. Paul avait déjà dit dans le chapitre 2, versets 19 à 21. 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. » 20, « Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 21, en qui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Je dirais donc que dans un certain sens, il y avait une manière unique dont Dieu a utilisé les apôtres et les prophètes dans l'Église primitive, et cela ne peut pas être reproduit aujourd'hui. Il y avait un fondement qui a été posé. Dieu a utilisé ces hommes pour nous donner les Écritures du Nouveau Testament et pour former la première Église. Je dirais donc que cela était unique et ne peut pas être dupliqué. Mais si nous entendons par « apôtre » le sens de quelqu'un qui est envoyé, ce qui est la signification du mot « apôtre », et si nous entendons par « prophète » le fait d'avoir le don spirituel de prophétie, décrit dans la première épître aux Corinthiens, alors je dirais que cela existe encore aujourd'hui. Autrement dit, j'ai été envoyé pour fonder une église ici, en Pologne. Mais je ne dirais pas que j'ai le même rôle que l'apôtre Pierre, Jean, Paul ou l'un des autres apôtres que Dieu a utilisé pour écrire le Nouveau Testament. Et voici ce que je dirais à propos de ces deux mots, ainsi que de tout autre titre. Faites attention à ne pas suivre quelqu'un simplement parce qu'il porte un titre. N'importe qui peut s'attribuer un titre. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte un titre que le Seigneur lui a donné ce ministère. Surtout à notre époque d'Instagram et de YouTube. Il est facile de trouver des images comme celle-ci, image de prophète, d'abord, puis d'apôtre, puis de docteur. J'ai fait celle-ci en 2 minutes. ChatGPT savait déjà quel texte y mettre. 1. Réveil et puissance. Enflamme ta foi. Feu. Un nouvel élan de l'esprit. Ta percée arrive. 2. Des rêves qui atteignent le ciel, devant un jet privé. 3. Et les titres peuvent impressionner dans le monde académique. Je ne suis pas docteur, mais sur cette photo, on dirait que je sais de quoi je parle. Mon point est le suivant. N'importe qui peut se donner un titre. N'importe qui peut créer un joli graphique pour Instagram. Mais si tu ne connais pas cette personne, sois très prudent, avant de lui donner la moindre autorité dans ta vie. Ne place pas ton espoir dans un homme, ni dans un titre prestigieux. Et permettez-moi de dire encore une chose. S'il vous plaît, revenons à l'image avec le feu et les lions. Savez-vous à quoi je pense quand je vois des choses comme ça? Je pense à la loterie. Qu'est-ce que la loterie? La loterie vous vend l'idée d'un raccourci. La loterie vend l'idée que vous n'avez pas besoin de travailler dur et d'épargner pour devenir riche, mais que vous pouvez devenir riche rapidement en achetant un billet de loterie. Savez-vous qui achète le plus de billets de loterie? Pensez-vous que ce sont des gens riches? Non. Ils ont travaillé dur pour obtenir cet argent, alors ils ne veulent pas le gaspiller. Les meilleurs clients de la loterie sont les pauvres. Ils cherchent un raccourci. Mais malheureusement, la loterie les maintient dans la pauvreté. Elle offre la possibilité de devenir riche rapidement. Mais pour la majorité des gens qui jouent à la loterie, ils gaspillent le peu d'argent qu'ils ont dans des billets de loterie. Cette image me fait penser à la loterie, parce qu'elle essaie d'offrir un raccourci spirituel. Viens chercher ta percée. Viens chercher ce feu et cette puissance. Viens obtenir le succès que tu désires. Croyez-vous que des personnes spirituellement matures tombent dans ce piège? Non, parce qu'elles savent qu'il n'y a pas de raccourci dans le royaume des cieux. Le fruit spirituel met du temps à mûrir. Suivre Jésus est un voyage, ce n'est pas un vol rapide. Mais vous savez quel genre de personnes se laissent malheureusement attirer par ce genre de choses? Malheureusement, ce sont des personnes moins matures spirituellement, des personnes désespérées, des personnes qui cherchent un raccourci. Mais il n'y a pas de raccourci dans le royaume des cieux. Jésus a dit que si tu veux être mon disciple, tu dois renoncer à toi-même, prendre ta croix et me suivre. Jésus n'a pas dit de courir après les feux, les nouveaux mouvements, ou d'obtenir ta percée. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Ne place pas ton espoir dans de grands événements, dans des titres prestigieux, ou dans des gens qui offrent des raccourcis spirituels. Place ton espoir dans le Seigneur. Paul mentionne également les évangélistes, les personnes qui partagent l'évangile avec les autres. Et il mentionne les pasteurs et les enseignants. Certaines personnes disent qu'il s'agit de deux fonctions différentes. Et d'autres disent qu'il devrait s'agir de pasteur, enseignant, à cause de la conjonction que Paul utilise. Dans tous les cas, elles sont étroitement liées. Le mot pasteur est lié au mot berger. Un bon berger veille sur les brebis et prend soin d'elles. C'est ainsi qu'un pasteur devrait conduire les membres de l'Église. Je me souviens que lorsque j'étais au séminaire, j'ai demandé à certains de mes camarades quel ministère ils voulaient exercer après l'obtention de leur diplôme. Et je me souviens qu'un de mes amis a dit qu'il voulait être pasteur enseignant dans une grande église. En d'autres termes, il voulait être sur scène chaque semaine pour prêcher, mais il ne voulait pas rencontrer les membres de l'église pendant la semaine. Je lui ai dit que c'était insensé. D'abord, aucune grande église n'embaucherait un jeune de 25 ans comme principal enseignant. Ensuite, pourquoi l'Église se soucierait-elle de ce que tu as à dire si toi tu ne te soucies pas d'eux. L'enseignement et le pastorage vont toujours de pair. Je sais que certains d'entre vous viennent de milieux ecclésiaux où vous n'aviez pas accès au pasteur, ou bien le pasteur était difficile à approcher. Le pasteur ressemblait davantage à une figure royale. Je suis désolé. Je ne trouve tout simplement pas cet exemple dans le Nouveau Testament. L'image que Paul nous donne ici est celle d'un berger, pas d'un roi. Un berger passe du temps avec les brebis. Pour moi, les deux choses les plus importantes que je fais pendant la semaine sont enseigner ou prêcher, et marcher et prier avec vous. Je peux accepter d'être mauvais dans toutes les autres parties du travail, mais ces deux choses, le pastorage et l'enseignement, je veux consacrer la majorité de mon temps à les faire. Donc nous voyons ces ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers et les enseignants. Et que sont-ils censés vous aider à faire? Sont-ils censés vous aider à obtenir ce feu, ce renouveau ou cette percée? 12. Pour équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Paul ne dit rien à propos d'un feu nouveau, de nouveaux mouvements, ou d'obtenir votre percée. Que doit faire la direction de l'Église? Il est dit que leur rôle est de vous aider à être équipés pour faire l'œuvre du ministère afin que vous puissiez édifier l'Église, être unis dans la foi et la connaissance et parvenir à la maturité spirituelle. Cela se produit de diverses manières. Certes, cela inclut l'enseignement, comme je le fais maintenant, mais cela peut aussi être une étude biblique, une conférence ou un accompagnement individuel. L'enseignement peut prendre de nombreuses formes, mais cela signifie également offrir des opportunités pour que l'Église puisse exercer son ministère. Être équipé ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances, mais à utiliser ces connaissances pour servir. Servir Dieu et servir le peuple de Dieu. En d'autres termes, l'œuvre du ministère n'est pas seulement accomplie par les responsables et le personnel. Paul dit que c'est à toute l'Église de la faire. Chacun a un don, et chacun devrait utiliser ce don pour contribuer à l'édification de l'Église. Autrement dit, il ne s'agit pas de recevoir ce feu, ce mouvement ou cette percée. Il s'agit de donner. Être équipé pour servir et édifier l'Église. Ma deuxième question ce matin, deuxièmement, êtes-vous un consommateur ou un contributeur? Comment servez-vous l'Église de Dieu ici? Recevez-vous uniquement ou servez-vous aussi et donnez-vous aussi? Il y a de nombreuses façons de servir dans l'Église. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et que vous ne savez pas quel est votre don. Ce n'est pas grave. Nous aimerions vous aider à découvrir ce don. L'essentiel est que nous avons besoin de vous. Nous ne sommes pas complets sans vous. Nous avons besoin de vous pour nous aider à édifier ce corps de Christ, afin que nous puissions parvenir à la maturité. Voulez-vous nous aider? 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, ballottés et emportés à tout vent de doctrine, par la ruse des hommes, par leur habileté dans les moyens de séduction. Quel est le contraire de la maturité? L'enfantillage, l'immaturité dans la foi. Paul nous donne cette image d'être ballotté par les vagues et les vents de différentes doctrines et ruses. Si vous avez déjà été dans l'eau, quand il y a du vent, et que les vagues deviennent grosses, c'est effrayant. Vous vous agrippez à tout ce que vous pouvez trouver pour vous retenir. C'est l'image ici. C'est quelqu'un qui n'est pas solide dans la vérité. Donc, il est facilement persuadé par de faux enseignements. Cela ne fonctionne pas, alors il s'accroche à tout ce qu'il peut trouver, et ce sont encore de faux enseignements. D'un côté à l'autre, sans cesse, allant dans une direction, puis dans une autre. Paul dit, grandissez, ne soyez pas comme cela. Soyez équipés. Grandissez dans la connaissance de Christ, et vous serez capables de reconnaître ce qui est vrai, lorsque de faux enseignements arriveront.
15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards, en celui qui est la tête, c'est-à-dire Christ.
16. De qui tout le corps, bien coordonné, et formé par l'ensemble des jointures qui le soutiennent, tire sa croissance selon la force qui convient à chaque partie, et s'édifie lui-même dans l'amour. Nous sommes appelés à connaître la vérité, et nous sommes aussi appelés à dire la vérité. Mais certains chrétiens sont vraiment doués pour dire la vérité, mais ils échouent dans la seconde partie, dire la vérité dans l'amour. Autrement dit, Dieu ne se soucie pas seulement de ce que vous dites, il se soucie aussi de la manière dont vous le dites. Il se soucie de l'emballage.
Permettez-moi de vous poser la question. Troisièmement, dites-vous la vérité ou dites-vous la vérité dans l'amour?
N'importe qui peut simplement dire la vérité. Mais il faut de la maturité, il faut de la sagesse, il faut de la prière pour dire la vérité dans l'amour. Et lorsque nous faisons cela, nous offrons à quelqu'un un cadeau qui peut l'aider à grandir vers la maturité. Paul revient à cette image de l'Église comme un corps, avec Christ comme la tête. Et lorsque le corps grandit et est équipé, il devient plus fort et il fonctionne comme Dieu l'a conçu. Après avoir couru le week-end dernier, j'avais vraiment mal à l'omoplate. Alors j'ai fait une séance de kinésithérapie au 4e étage. Le kinésithérapeute m'a expliqué comment tout dans le corps est connecté et comment, si vous utilisez une partie de manière excessive, cela met une pression sur les autres parties du corps. Je lui ai dit que je ne suis pas kinésithérapeute, mais que la Bible dit la même chose. Si une partie n'est pas active, alors les autres doivent essayer de compenser, ce qui peut entraîner trop de tension sur ces parties. De la même manière, Dieu a conçu l'Église comme le corps. Toutes les parties doivent travailler ensemble pour que le corps atteigne son plein potentiel. Je suis assez sûr que le kinésithérapeute ne s'attendait pas à une étude biblique ce jour-là, mais il était d'accord. Pour que le corps fonctionne à son plein potentiel, toutes les parties doivent travailler ensemble. Dernière question. Quatrièmement, marchez-vous d'une manière digne de votre appel en Christ? Vivez-vous comme quelqu'un qui a été choisi par Dieu? Vivez-vous comme quelqu'un qui a été sauvé par la grâce au moyen de la foi? Comment est votre calibration? Vivez-vous votre vie de la façon précise que Dieu a prévue pour vous? Vous savez, ce qui est génial avec ces montres, c'est qu'une fois que j'ai su qu'elles n'étaient pas calibrées, il a été vraiment facile de la régler. Hier, je suis allé courir et tout a très bien fonctionné. La distance était précise, le rythme était précis, et une fois que j'ai su que je courais selon ce qui était vrai, j'ai réellement apprécié la course, ce que je ne pouvais pas dire dimanche dernier. Marchez d'une manière digne de votre appel en Christ. Soyez ce que vous êtes déjà, afin qu'en tant qu'Église, en tant que corps du Christ, nous puissions continuer à grandir, à devenir plus forts dans l'amour. Fin du sermon.